Bonjour aux auditeurs et auditrices de RCS.
Bonjour et bienvenue sur RCS. Aujourd'hui à l'antenne, c'est Ilan et
Aminata.
En avril, nous fêtons Pâques avec un S. Quelle est l'origine de cette fête ? L'origine de cette fête se trouve dans la vie de Jésus. Il est crucifié, c'est-à-dire cloué sur une croix, sentence réservée aux criminels. Il meurt et est enseveli vendredi saint dans une tombe où son corps repose, jusqu'au lendemain, samedi saint. Mais lorsque ses proches en deuil viennent se recueillir sur son tombeau, le dimanche, celui-ci est vide. Jésus est ressuscité, c'est-à-dire qu'il est revenu à la vie. C'est cet épisode qui est célébré à Pâques. Cette fête commémore l'événement central de la foi chrétienne, la résurrection de Jésus-Christ. Passé de la mort à la vie, il offre aux hommes la vie éternelle.
Mais Pâques a aussi sa légende. La voici. D'après une légende allemande, une pauvre femme qui n'avait pas les moyens d'offrir des friandises à ses enfants, eut l'idée un jour de décorer des œufs et de les cacher dans son jardin. Partie à la chasse aux œufs, les enfants aperçurent un lapin et pensèrent alors que c'était son œuvre. Les cloches de Pâques ont aussi leur légende. Partie à Rome, en pèlerinage, se revenaient en laissant tomber des œufs en chocolat dans les jardins. Elles restèrent généralement muettes avant Pâques, puis retentissent à nouveau le dimanche de Pâques pour célébrer la résurrection du Christ. Et voilà, vous savez tout. Joyeuse Pâques à tous.
RCS spécial collège interview.
Bonjour chers auditeurs et auditrices de RCS. Aujourd'hui à l'antenne, c'est Aminata
et Ilan.
Je suis avec Madame Bourgeois, principale du collège. Bonjour Madame Bourgeois. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Pouvez-vous nous parler des études que vous avez suivies et de votre parcours professionnel ?
Alors, j'ai fait une maîtrise d'allemand, un DESS études germaniques et quelques années plus tard, j'ai fait une licence en lettres modernes. Voilà. Et j'ai été professeure d'allemand dans plusieurs établissements du Haut-Rhin.
Et pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
Alors, j'ai choisi le métier de chef d'établissement parce que j'aime travailler avec les jeunes. Et lorsque j'étais enseignante, je voyais des élèves toute la journée. Et là, je travaille plus avec les enseignants, les parents d'élèves, mais je travaille également avec les élèves. Alors moi, j'aime bien travailler avec le CVC. J'aime rencontrer les élèves pour toutes sortes d'occasions et pas seulement lorsqu'ils ont fait une bêtise. Je préfère les féliciter pour leur travail ou leur engagement.
Quelles sont vos missions au collège ?
Alors, ma première mission, c'est d'assurer la sécurité au sein du collège. Et la sécurité des élèves passe par le règlement intérieur du collège et il est important de faire respecter les valeurs de la République au collège afin que nous allions tous dans la même direction. Et bien sûr, j'ai à cœur la réussite de tous les élèves et leur bien-être.
Que pensez-vous du collège Robert Schumann ?
Je pense que c'est un très bel établissement et que les professeurs y sont très investis. J'ai vraiment envie que les élèves s'y sentent bien.
Quels sont vos projets pour notre collège ?
Dans mes projets pour le collège, c'est d'en faire un lieu de vie et d'apprentissage où les élèves et les parents aiment venir et y développer des projets.
Avez-vous un mot à conseiller pour nos auditeurs et auditrices ?
Oui, inscrivez vos enfants au collège Robert Schumann. Chaque jour, ils deviendront de bons citoyens, acteurs de leur apprentissage.
Et enfin, accepterez-vous de nous dire quels sont vos loisirs ?
Oui, la famille, c'est très important pour moi. Donc, j'aime passer du temps avec mes proches et puis j'adore les animaux. Et donc, j'ai beaucoup de plaisir à m'occuper de mes chats, entre autres.
Merci pour ces moments passés avec vous, Madame Bourgeois.
Je vous en prie.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, à l'antenne, c'est
Yusra
et Gwen. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la pauvreté en France. En France, on estime qu'il y a 9 millions de pauvres. Ce chiffre est très élevé. Ils vivent avec moins de 1000 euros par mois.
On peut être pauvre et vivre dans des situations très différentes. Certaines personnes ont perdu leur travail, ou bien elles ont eu un accident, des problèmes de santé ou dans leur vie personnelle. Elles ont passé beaucoup de temps au chômage à essayer de chercher un nouvel emploi et n'ont plus d'espoir d'en trouver. Mais d'autres ont un emploi. Elles ont un métier très mal payé ou ne travaillent que peu d'heures par semaine, ce qui ne leur permet pas de vivre correctement. D'autres encore sont des étrangers qui n'arrivent pas à obtenir des autorisations pour trouver du travail. La pauvreté touche aussi de nombreuses familles et surtout celles où la mère est toute seule pour s'occuper des enfants.
De nombreuses associations comme le Secours catholique ou la Croix-Rouge française le Secours Populaire ou encore Emmaüs viennent en aide à ces personnes. En plus des aides accordées par l'État, de nombreuses personnes en France s'engagent bénévolement auprès des plus pauvres. Si toi aussi, tu veux donner de ton temps, voici quelques idées. Donner des vêtements trop petits à une association.
Donner des jouets à une association.
Donner des livres pour un pays où les enfants n'en ont pas.
Aider une personne âgée à faire ses courses.
Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices de RCS.
Aujourd'hui, à l'antenne, c'est Alexis et Lucien.
Et tout de suite, nous allons au Pérou avec notre envoyé spécial.
Au Pérou, des policiers ont trouvé une momie en position fœtale dans un sac isotherme d'un homme arrêté la semaine passée. Selon lui, elle est la propriété de sa famille depuis 30 ans. Et il la considère comme sa compagne spirituelle. Il l'a déclaré l'avoir voulu montrer à ses amis. La momie date de 600 à 800 ans selon le ministère de la Culture, qui en désormais la garde. Il s'agit d'un corps d'un homme mort à 45 ans environ.
Et dis donc, au Pérou, il y a des choses cheloues. Aéroport, des carcasses et des animaux confisqués. Le secrétaire d'État à l'écologie a annoncé le 15 février une campagne de sensibilisation du trafic des bêtes sauvages. Dans les aéroports internationaux, des voyageurs sont contrôlés en possession d'animaux sauvages morts ou vivants. Poissons d'eau douce, pangolins, chauves-souris, singes, détectés au rayon X dans des bagages, ces carcasses d'animaux sont destinées à être mangées. À l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, 30 tonnes de marchandises animales sont confisquées chaque semaine. D'autres spécimens arrivent vivants. La plupart sont euthanasiés. Une exception, à Paris-Charles de Gaulle, une station animalière tenue par un vétérinaire qui est araignée, reptile, oiseau. Détenir un animal sauvage s'apparente à du trafic. Les voyageurs risquent des peines allant de 3 ans de prison et 150 000 euros d'amende. La plupart des animaux représentent par ailleurs un grave risque de transmission de maladies, le saviez-vous? Le trafic d'animaux sauvages représente 23 milliards d'euros. Mais heureusement, il y a des belles histoires à Saint-Quay-Portieux.
Eh oui, Jamy, un rarissime homard bleu a été pêché et sera préservé. Fin février, un pêcheur professionnel de Saint-Quay-Portieux a trouvé un homard bleu, selon la radio France Bleu Armorique. Ce crustacé est tellement rare que le pêcheur a refusé de le tuer. Il l'a offert à un poissonnier chez qui il est possible de l'admirer à Ploua. Seul un homard sur 2 millions a cette couleur bleutée, due à une anomalie des gènes.
Bonjour et bienvenue sur RCS.
Aujourd'hui à l'antenne c'est
Timothée
et Quentin.
Et nous allons parler d'espionnage. Qui veut devenir espion? Le service secret français veut embaucher 1000 personnes en 2023. Qui sont ces futurs espions et espionnes?
DGSE. Derrière ces quatre lettres se cachent les services secrets français, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Elle emploie 7000 personnes, dont la plupart travaillent à Paris. Les bureaux se trouvent dans une ancienne caserne, mais un déménagement est prévu en 2028 dans des locaux plus modernes et plus grands. Les agents de la DGSE n'ont pas le droit de parler de leur travail, même à leur famille ou à leurs amis. Si on les questionne sur leur métier, ils parlent d'un emploi pas très intéressant dans un bureau.
Pour certaines missions, surtout à l'étranger, ils changent de nom et s'inventent une fausse vie qu'on nomme la légende. Elle permet à l'agent secret de récupérer des documents et des infos sans être soupçonné.
Le rôle d'un espion est d'obtenir des informations partout dans le monde pour identifier les menaces qui pèsent sur la France, comme les risques d'attentats. Ces renseignements sont vérifiés puis transmis au président de la République afin qu'il prenne des décisions pour assurer la sécurité du pays.
La DGSE, c'est près de 300 professions différentes. Des spécialités de l'informatique, des langues, des sciences, de la sécurité mais aussi de la construction des bâtiments ou encore des jeux vidéo. Il y a également des couturières chargées de cacher des micros et des caméras dans des sacs ou des vêtements. L'an dernier, la DGSE est même à la recherche d'un pâtissier. Elle souhaite aussi embaucher plus de femmes et leur assure qu'il est possible d'être espionne et d'avoir une famille. La preuve, une crèche sera aménagée dans les nouveaux locaux.
RCS, spécial collège, interview.
Bonjour et bienvenue sur RCS. Je m'appelle Kylian, je suis en 5e B et mon partenaire pour cette émission s'appelle Lucien. Nous sommes avec Monsieur Salit et nous allons parler du développement durable au collège. Bonjour Monsieur Salit, merci de nous accorder du temps pour notre émission.
Depuis combien de temps êtes-vous professeur au collège et depuis combien de temps êtes-vous la personne référente pour tout ce qui concerne le développement durable au collège?
Bonjour, je suis professeur au collège depuis une vingtaine d'années. Je pense avoir été muté à environ 2000, quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne. Et je suis référent EDD depuis une dizaine d'années, puisqu'avant la fonction n'existait pas. Elle a été créée finalement récemment. Et aujourd'hui, le développement durable fait partie intégrante des matières. Et donc, on devrait en entendre parler de plus en plus dans les années à venir.
Pouvez-vous nous parler de ce que vous avez déjà mené ?
Alors au collège, de nombreux projets ont été menés dans différents domaines. Par exemple, sur le domaine de l'eau, on avait travaillé sur la ture. On avait également installé des ruches. On peut en voir une depuis votre beau studio de radio. On avait fait des projets également sur le papier, sur le plastique, hein, sur le sable. Donc il y a plein de thématiques qui ont été abordées avec un club EDD qui a été construit par la même occasion.
Quels sont vos projets ?
On a de nombreux projets en perspective au collège, notamment continuer tout ce qui a été fait sur le sentier du Stockenberg, puisque ça fait 2 ans maintenant que le sentier existe et on veut l'enrichir chaque année. Moi, je souhaite également travailler sur le ruisseau qui traverse le collège, sur le Fogelbach. On avait déjà travaillé sur le thème de l'eau, mais là, la thématique elle est très intéressante. On en parle beaucoup et avoir un ruisseau au milieu du collège, c'est également un atout considérable. Et l'idée, ça serait aussi de travailler sur la végétalisation du collège, puisqu'il y a beaucoup de béton qui nous inonde. Il y a de moins en moins de nature et ça paraît essentiel de travailler sur ce sujet-là pour qu'on puisse vivre avec un petit peu plus d'arbres et de fleurs tout autour de nous.
Quels sont les défis et les difficultés que vous rencontrez ?
Ah, ça, c'est une vaste question. Les défis et les difficultés sont nombreuses et nombreux. C'est d'abord une question de temps. Hein. Tous les projets qu'on mène, c'est assez chronophage, donc ça nous prend beaucoup de temps à les construire, puisqu'en fait, on part de rien. Et à chaque fois, il faut tout mettre en œuvre. Je dirais aussi des difficultés d'ordre financier, puisqu'en général, on n'a pas beaucoup d'argent pour mener ces projets. Il faut parfois se débrouiller pour trouver des sponsors ou autres. Et ensuite, on travaille en général toujours à peu près avec les mêmes professeurs. Je peux citer Madame Fembel qui m'accompagne systématiquement sur les projets de développement durable. Mais mobiliser d'autres professeurs, c'est parfois assez difficile. Donc ça ferait partie aussi des choses à régler, hein, qu'il y ait davantage de personnes qui soient mobilisées sur le sujet.
Auriez-vous un message pour nos auditeurs ?
Un message qui consisterait à vous encourager, à vous engager, vous, hein, pour l'environnement, que ce soit ici ou au collège. Chaque geste que l'on fait, c'est un geste qui est important, aussi modeste soit-il. Donc allons-y pour la planète et pour l'environnement.
Merci, au revoir.
Merci à vous.
RCS 2023, Culture.
Bonjour et bienvenue sur RCS. Aujourd'hui à l'antenne, c'est Sacha et je vais vous parler du mystérieux couloir de Khéops. Dans la plus grande des pyramides égyptiennes, les archéologues ont découvert un passage secret. À quoi pouvait-il servir ? Dans l'Égypte antique, les pyramides étaient les tombeaux des pharaons, les puissants chefs du pays. La plus grande se trouve près du Caire, la capitale de l'Égypte actuelle. Elle a été bâtie vers 2560 avant Jésus-Christ, durant le règne du pharaon Khéops. Haute de 139 mètres, elle a été le plus haut monument du monde jusqu'à la construction de la tour Eiffel. Elle a été explorée dès le Moyen-Âge, mais on n'y a jamais retrouvé le corps du pharaon, ni aucun trésor. À l'intérieur de la pyramide, un couloir étroit mène à la chambre souterraine. Un autre à la chambre de la reine, et une grande galerie permet d'accéder à la plus vaste, la chambre du roi. Dans celle-ci se trouve un sarcophage vide, dont le couvercle a disparu. Depuis 2015, les scientifiques de différents pays essaient de percer les mystères de la pyramide en utilisant des appareils permettant de voir à travers les murs sans y percer de trous. Cette technique permet d'identifier 2 lieux jusqu'alors inconnus. Le grand vide, une immense cavité d'au moins 30 mètres de long, au-dessus de la plus grande galerie, et un couloir situé près de l'entrée. Le 24 février dernier, grâce à une minuscule caméra, les chercheurs ont obtenu les premières images du corridor secret. Selon une archéologue égyptienne, le tunnel protège la véritable chambre funéraire du roi Khéops.
Bonjour à tous, chers auditeurs de RCS. Aujourd'hui, c'est Mélissa et Romy à l'antenne et nous allons vous parler de cinéma avec le film de Sébastien Tullard à la Belle Étoile.
Yazid, 16 ans, vit ballotté entre un foyer éducatif et sa famille d'accueil. Mais sa passion, elle ne change pas, c'est la pâtisserie.
Prête à tout pour devenir le meilleur, il fugue pour travailler dans le restaurant gastronomique de son idole, un chef de renom.
Un pari qui le mènera de la banlieue parisienne à Monaco.
Avec sa détermination et son caractère bien trempé, Yazid, interprété par le youtubeur Jestriad, est touchant.
En plus, le film est inspiré d'une histoire vraie. Et cerise sur le gâteau, les magnifiques gros plans sur la nourriture déconseillée aux ventes vides.
RCS 2023 Sport.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, à l'antenne, c'est Kylian. Nous allons parler voiture de compétition. Une toute nouvelle Lamborghini vient de sortir. La Huracan GT3 Evo 2 a été conçue et développée par Lamborghini Squadra Corse sur la base de la Huracan STO, avec laquelle elle partage d'importants éléments de design, la propulsion et le moteur V10 atmosphérique. La GT3 Evo 2 est entièrement conforme au nouveau règlement technique FIA, Fédération Internationale de l'Automobile, et présente toute nouvelle solution aérodynamique. L'inimitable design hexagonal de la prise d'air et l'aileron arrière sont dérivés de la Huracan STO. La prise d'air est reliée à un snorkel tuba qui permet au moteur d'absorber de l'air, qui canalise de manière optimale le flux d'air directement dans le moteur, la rendant plus réactive aux demandes du pilote. L'introduction de 10 corps papillons à commande électronique augmente l'efficacité du V10 avec des soupapes en titane. La carrosserie, entièrement en carbone, arbore un design musclé, réalisé en collaboration avec le Centro Stile Lamborghini. Un nouveau splitter, un nouveau diffuseur et un nouveau plancher garantissent une déportance exceptionnelle. Les innovations concernent également l'aile arrière. Les nouveaux supports permettent un réglage précis de l'aile elle-même. Bref, la toute dernière chez Lamborghini, alliée élégance et performance.
Bonjour et bienvenue sur RCS. Aujourd'hui à l'antenne, c'est Gabin et nous allons parler JO. Dans 500 jours, le monde entier a rendez-vous à Paris pour les 33e Jeux Olympiques d'été. Voici ce qu'il faut savoir sur l'événement. Voici quelques chiffres clés. 10 500 sportifs participeront aux JO de 2024. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, la parité sera respectée. Il y aura autant d'athlètes hommes que d'athlètes femmes. 45 000 volontaires seront recrutés par Paris 2024 pour aider à organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques. Pour postuler, il faut être majeur et parler soit anglais, soit le français. Un sport fera sa première apparition, le breakdance. Les épreuves ne se dérouleront pas seulement à Paris, mais aussi à Marseille, à Châteauroux, Lille, Nantes, Bordeaux, Nice, Lyon et Saint-Étienne. 10 millions de tickets seront vendus pour la compétition et 600 000 personnes assisteront à la cérémonie d'ouverture au long de la Seine.